Hello and welcome to La Crème Anglaise, a podcast où nous dégustons des spécialités britanniques et les traditions dans mon salon de thé. Je suis Sarah Le Sage et ravie de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, je suis de retour à Paris, au moins virtuellement parce que je suis en visio avec David John Kelly, un chef britannique qui a troqué son toc de chef pour sa casquette de propriétaire d'un tout nouveau établissement entre café et traiteur anglais, Project Sausage, qui vient d'ouvrir dans le 11e arrondissement. Aujourd'hui, on va parler d'un des gâteaux qu'il fait chez lui, un grand classique de la cuisine britannique, un petit gâteau, le flapjack. Mais d'abord, on va faire connaissance avec David. So, pinky up and let's get started. Alors, bienvenue David à la crème anglaise. Comme je t'ai dit quand je suis venue chez toi, j'adore le nom Project Sausage. D'où vient ce nom à la fois drôle, simple et tellement britannique?
Oui, c'est un nom, c'est pas le nom préféré au début. J'ai une vraie liste des autres noms, des autres idées, mais j'appelle ma femme toujours Sausage. je commence de mettre un peu d'argent à côté, un peu en espèces, dans une enveloppe, dans une placard, dans la cuisine. Et j'ai pas le nom, donc c'est Project Sausage. Avant, j'ai choisi le nom. Donc j'ai marqué Project Sausage. Et après ça, j'ai quelques rendez-vous avec mes petits frères qui font de marketing, le social media, et c'est son métier. Quand il voit ce nom, il m'a dit, oui, ça c'est le nom pour le projet. Et j'ai dit, mais non, je ne veux pas. Je suis une vraie chef de cuisine. Je passe toute la vie en cuisine. Je veux un nom plus sérieux ou un truc comme ça. Mais en fond, c'est lui qui gagnait cette discussion. Et voilà, ça c'est le début du projet Sausage, en fait. Donc,
bah, c'est génial. Ouais. Moi, ça m'a tout de suite parlé. Mais c'est vrai qu'avant de faire ce projet, tu es arrivé de Londres pour travailler dans des restaurants à Paris. Donc, d'où vient cette passion pour la cuisine et comment tu es arrivé à Paris?
En fait, quand j'ai fini à l'école à 16 ans, je n'ai pas de vrai choix qu'est-ce que j'ai fait dans la vie. Je n'ai pas d'idées, je n'ai pas de passion, sauf le foot, mais je n'arrive pas à jouer le foot. comme tout le monde. Donc, j'ai un rendez-vous dans une career office pour trouver un poste de travail. Il m'a donné un poste d'apprenti dans une cuisine qui s'appelle Champneys en Hertfordshire. Et ça commence comme ça. Juste le premier jour en cuisine, c'est intéressant parce que je ne connais pas la différence entre une aubergine... une courgette, un truc comme ça, c'est hyper drôle pour les équipes.
Ah ouais.
Parce que chaque fois que quelqu'un veut une légume ou quelque chose dans le frigo, c'est « Ah, David, prends-moi l'aubergine dans la chambre froide. » Je dis « Oui, ok. » Mais je reste peut-être 45 minutes dans la chambre froide, je suis hyper froid et je ne le trouve pas parce que je ne connais pas c'est quoi. Mais je n'ai pas dit ça.
Mais ça veut dire que vous ne mangez pas des légumes comme ça à la maison?
Ah non, non. Chez moi, c'est toujours le chips, le pizza, le burger congelé toujours. Ma maman ne fait pas
D'accord.
de cuisine. Donc, en fond, c'est plutôt moi qui fais la cuisine pour ma famille. Mais juste le truc simple, comme le sausages ou le Yorkshire pudding, quelque chose comme ça. Mais enfin, j'ai pas de passion pour la cuisine à
parce
le début.
Parce que tu connaissais pas peut-être la cuisine. Si ça réduisait à le congelé, les frites et burgers, bah, je comprends. Donc là, tu tombes un peu comme dans une marmite. Par hasard, tu arrives dans une cuisine et c'est là que tu as découvert ce que c'était la vraie cuisine.
Oui, c'est ça. Mais aussi, quand j'étais un enfant, j'ai le voisin à côté qui est une vraie chef de cuisine. Il est hyper bon. Et chaque fois, il fait le barbecue ou le petit salade, le dîner avec sa femme et sa fille. il y a une mer, je vois overboard. Toujours le salade, le truc vraiment fou. Hein. J'aime pas, c'est quoi ça? J'ai jamais vu une salade de fenouil ou un truc comme ça. Mais chaque fois que j'ai la possibilité de manger chez lui, oui, je pars chez lui pour aider avec n'importe quoi, juste pour goûter qu'est-ce qu'il fait. Oui, j'ai fait un petit tour d'Angleterre en cuisine. Mais quand j'étais, quoi, 22 ans, 23 ans, je crois, je viens à Paris juste pour un week-end, pour mon anniversaire, avec mon meilleur ami, qui est déjà une chef barman à Paris. Il passe 3 jours, il fait un tour de Paris pour toutes les choses que j'aime bien. Et enfin, il m'a proposé un poste chef de cuisine pour partager son appartement. J'ai dit, OK, bon, je viens pour quelques mois, pour une petite pause, une petite vacance. Et 14 ans plus tard, je suis toujours là, mais lui, non.
Ah, d'accord. Et alors, est-ce que c'était des vacances ou est-ce
Ouais.
que tu as tout de suite commencé à travailler dans des restaurants?
En fait, je rentre en Angleterre pour donner mon lettre de mission. Je travaille pour 4 semaines pour mon ex-chef. Après ça, oui, je. Direct dans une cuisine à Paris. Mais ça, oui, c'est drôle avec la langue là-dessus parce que je ne comprends pas. J'ai une équipe qui parle français. J'ai quelqu'un qui parle quelques mots en anglais. Donc, il m'a aidé un peu et j'ai un dictionnaire en cuisine toujours pour demander au plongeur pour faire son travail. Parce que toujours, j'ai demandé quelque chose. Désolé, je parle co-français, pas anglais, j'ai OK, c'est comme ça. Donc, je commence à faire les petites notes, comprendre le petit mot. Donc, comme ça, c'est possible de faire bien propre cuisine pour demander les équipes pour faire le cuisine comme je veux. Après 2 ans en cuisine à Paris, j'ai quitté mon poste de chef de cuisine pour prendre un poste chef de partie. Ah non, pardon, sous-chef à la retombe de Stalingrad. Parce que je comprends, ce n'est pas une vacance après 2 ans. Donc, je suis obligé de prendre la langue et vraiment le cuisine français. Ça, c'est hyper difficile là-bas parce que je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai besoin de faire, le menu. Après 18 mois, là, je comprends beaucoup mieux la langue.
Bah, en fait, c'est comme si tu as dû reprendre les bases. Comme la première fois, tu arrives dans une cuisine, tu comprends pas les légumes, et là, rebelote à Paris, tu comprends pas la langue. Donc, franchement, chapeau, hein, parce qu'il fallait
Non.
vraiment. Mais j'ai remarqué qu'il y a pas mal de chefs anglais à Paris qui parlent très peu ou pas du tout le français. Je ne sais pas comment ils font.
Oui, mais maintenant c'est beaucoup plus facile parce que tout le monde comprend un peu anglais. Et ça, c'est un problème aussi pour moi parce que si personne parle anglais, bien sûr, après 2 ans, je comprends bien en français. Mais aussi, quand j'ai un poste chef de cuisine, c'est moi qui choisis mon équipe. Donc, toujours, j'ai quelqu'un à côté de moi qui parle anglais pour moi.
Effectivement.
Oui, j'ai quelqu'un qui appelle le fournisseur pour la commande. J'ai quelqu'un qui traduit tout le document. Donc, c'est hyper facile à le début. Le problème, c'est pour comprendre la langue. C'est toujours un challenge parce qu'il y a toujours les autres mots ou quelque chose que je ne comprends pas. Mais en
Tu
général,
t'en
ça va.
sors. Et donc, dans quel restaurant tu as travaillé à Paris?
Alors, la retombe de Stalingrad, il y a un restaurant qui sont fermés maintenant, s'appelle NBC. Ça, c'est un restaurant de Gilles Choucroune. Après ça, j'étais le chef de cuisine pour l'ouverture de le dépanneur à Pigalle, en terrasse. Et après ça, j'ai parti pour 2 ans. Pour le voyage en Australie-Nouvelle-Zélande. Et quand je reviens, je travaille chez Alain pour Alain
Ah ouais, quand
Ducasse.
même.
Oui. Et ça, c'est une bonne expérience. Après ça, j'ai fait quelques mois où un restaurant s'appelle Salt. C'est grâce à ça que je connais Edward.
Edward Belling Williams, qu'on a déjà eu dans un autre épisode.
Oui. Après ça, je suis le second de cuisine au Le 6 Poulbet dans le 11e pendant 3 ans. J'ai quitté là pour prendre le poste pour un nouvel restaurant, qui s'appelle Sausalito dans le 9e. Oui, ça, et ça, c'est mon dernier poste
bon,
de
c'est déjà
travail.
pas mal, hein, franchement.
Donc,
Et tout
ouais.
ça, alors, pour maintenant ouvrir un établissement en janvier 2023, je crois.
Oui.
C'est ce que tu appelles un British Deli. Alors, pour moi, un deli, j'associe plutôt avec comme une espèce de traiteur américain ou italien ou juif. C'est marrant, j'avais jamais pensé que ça pouvait être anglais, mais pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est pour toi, le projet, ton projet Sausage, qu'est-ce que c'est? C'est ni café, c'est ni traiteur, c'est un peu entre les deux. Comment est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu... Parce que tu cuisines tous les produits, tout est fait chez toi. Qu'est-ce que tu vends?
Oui, à le début, je veux ouvrir une coffee shop british avec quelqu'un, mais en France, j'arrive pas avec ça. Donc, j'ai 1000 possibilités de faire quelque chose. Je commence de réfléchir pour une vraie sandwicherie british. Parce qu'en France, il y a le sandwich qui est bon, mais c'est toujours le même goût. Chaque boulangerie, c'est le même jambon, beurre, crudité ou quelque chose comme ça. C'est bien, mais pas toujours. Mais en Angleterre, il y a une vraie culture de sandwich, donc je commence avec ça. Mais le plus je discute la possibilité avec quelques personnes dans ma famille et des amis qui travaillent en cuisine. Tous les expats qui m'ont dit, oui, mais il n'y a pas quelqu'un qui fait le pork pie, le sausage roll. J'ai dit, ok, je commence à réfléchir, j'ai de bonnes recettes déjà. Oui, le corniche pasty, ça, c'est parce que j'ai acheté une moule qui est hyper chère. Donc, je suis obligé d'essayer de
Oh
récupérer
ben moi,
cet
je suis très
argent.
content parce que je suis de Cornouailles. Donc, c'est très bien de trouver des corniche
Ouais.
pasties à Paris. C'est super.
Ouais. Et je crois que je suis le seul qui fait ça. Mais pour le nom Delhi, c'est vrai, c'est pas un truc tellement british. Mais quand même, c'est pas mon métier de choisir un nom, un truc comme ça. La créativité, pour moi, c'est plutôt en cuisine. Et quand je réfléchis pour trouver. Je suis pas une boulangère, donc c'est pas une bakery. Je suis pas une pâtissière. Je suis une chef de cuisine. Donc, pour trouver
Bah avec une
le
formation
nom.
Michelin en plus, donc il y a
Ouais.
pas. C'est
Ouais.
vrai que c'est difficile à définir, mais je trouve que vraiment ton
Ouais.
positionnement est parfait.
Oui, aussi à Paris, il y a plein de très bons boulangeries déjà. Donc, ce n'est pas juste si j'ai dit oui, je suis une bakery.
Est-ce que tu fais du pain?
Parfois, en ce moment, non, parce que j'ai pas le temps. Mais plus tard, je veux faire. Je commence à faire de focaccia maison, mais j'ai fait le service de traiteur à côté, catering. Donc, quand j'ai ça et le shop et ma fille,
Ouais.
c'est un peu trop pour moi. Donc, parfois, j'ai fait le pain quand c'est
Donc,
possible.
pour résumer, ce qu'on va trouver chez toi, c'est donc des sandwichs et je pense que tu as plusieurs propositions par jour.
Oui, j'ai toujours 4 sandwichs, 4 ou 5, 5 sandwichs. Quelque chose veggie, la house classique, c'est de bœuf rôti toujours. Mais pour exemple, aujourd'hui, j'ai changé 3 sandwichs, juste donc c'est plus intéressant pour le client. Et pour moi aussi, si je fais le même sandwich
Ouais.
toujours, c'est pas
Donc on
intéressant.
va trouver des sandwichs, on va trouver les sausage rolls, les pies. Donc j'ai goûté, c'était vraiment très très bon. Ton pie au poulet aux
Merci.
asperges, parce que la
Ouais.
pâte était vraiment super bien moelleux comme il faut. Et puis à l'intérieur, c'était pas du tout sec, c'était vraiment dans une bonne sauce. Et tu fais aussi des petits gâteaux et des gâteaux et on va y arriver. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que tu as pris la bonne cuisine de base, cuisine de tout le monde, mais que tu fais vraiment bien parce que tu fais tout de A à Z et tu privilégies les bons ingrédients.
Oui, c'est. Je connais la façon. Après mon expérience en cuisine, si je veux faire quelque chose, je veux faire correct et bien. C'est pour ça que j'ai fait le. Pour exemple, le toast, j'ai fait le pâte brisée maison. C'est 35% beurre.
Ah, c'est pour ça, c'était bon.
Mais c'est avec le. Ouais. Oui, c'est de bonne qualité de beurre. C'est facile pour. De fait, bon, pour moi, c'est facile pour faire tout ça. Si je veux mettre mon nom avec un produit, c'est toujours, je veux le bon quality. Je veux faire le meilleur possible. Mais c'est pour le client qui m'a dit si c'est top ou pas.
Donc, c'est, j'ai l'impression que, en fait, les Français, ils aiment bien parce qu'il faut juste préciser, c'est pas un café où on vient manger, c'est vraiment pour emporter.
Oui, j'ai deux chaises hautes ici si quelqu'un veut boire un café ou manger une sausage roll ou pour discuter quelque chose. Mais vraiment, c'est pour importer. J'ai l'impression en ce moment à Paris, il y a beaucoup d'intérêt pour le cuisine british. Il y a plein d'expats ici qui viennent le week-end pour le pastis, le sausage roll, le pork pie. Mais dans la semaine, il y a beaucoup de Français qui viennent. Pas juste pour le déjeuner, dans le matin pour une sausage roll avec son café, ou l'après-midi pour goûter, pour prendre le cookie, le flapjack, le brownie, le truc comme ça. Donc ça me fait plaisir pour essayer de changer la mentalité pour le cuisine british, parce qu'il y a tout le monde qui moque moi depuis 14 ans.
Ah
Parce que je suis british, ah, oh, c'est un chef british, comment ça, tu connais pas la cuisine? Mais maintenant, tout le monde vient pour le sausage roll, donc c'est un
ouais,
peu
mais c'est
rigolo.
super. Donc, en fait, on aura pu choisir tellement de choses chez toi, mais j'avoue, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Et puis, j'ai vu un petit flapjack qui me faisait un clin d'œil dans ta vitrine. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le flapjack, comment tu le décris?
Si vous aimez l'avoine, le truc sucré, c'est un petit goût de. Oui, c'est un petit goût de paradis. C'est de. Avec le golden syrup, il y a un peu. Ça dépend combien vous utilisez, mais c'est un peu chewy. C'est un bon snack pour le petit déj, pour le déjeuner. Bon, il n'y a pas une heure qui est pas bon pour une flapjack, quand même à 4 heures du matin. Je sais pas, c'est juste un truc. Pour moi, tout le monde fait ça avec mamie en
Ouais,
Angleterre.
c'est vraiment un gâteau fait maison.
Oui, c'est un truc maison, c'est pas un truc gourmand ou un truc comme ça. C'est hyper facile pour faire ça. Mais quand même, le nom, c'est rigolo pour tout le monde ici. C'est, ah oui, c'est quoi Flapjack? C'est, tu crées un nom? Non, non, c'est le vrai nom.
Mais justement, j'ai recherché ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'en fait, Jack, en fait, c'est un prénom commun un peu comme Jean en France, c'est pour dire Monsieur tout le monde. Et flap, ça viendrait du mot flip, de tourner, de retourner quelque chose. Et donc, selon le Oxford English Dictionary, ce mot, en fait, c'était beaucoup utilisé pour plein, plein de choses. Tout ce qui pourrait tourner, ça peut être un seau périlleux, ça peut être une machine hydraulique, ça peut être un poudrier, tu sais, où tu ouvres le couvercle pour un petit glace pour poudrer le visage. Et puis, c'était aussi utilisé beaucoup en pâtisserie pour toutes sortes de gâteaux, des crêpes, tout ce qui était un peu retourné. Mais en fait, c'était un mot générique pour des gâteaux simples qu'on pouvait faire avec tout ce qu'on avait à portée de main. Et c'est que depuis le 1930, qu'on va attribuer le nom à ce gâteau avec les ingrédients qu'on connaît aujourd'hui. Comme tu dis, les flocons d'avoine, le golden syrup et pas mal de beurre aussi, hein.
Oui, bien sûr. C'est pour ça, c'est
Bah
bon
oui, tout
aussi.
à fait. Et c'est typiquement british parce que justement, le golden syrup, ça c'est quelque chose. Alors tu m'as dit, tu es obligé de le faire venir par des copains dans des valises aujourd'hui parce que depuis Brexit, on n'a plus des Marks and Spencer ou d'autres magasins en France où on peut le procurer. Et on a les flocons d'avoine, ça c'est. On associe ça vraiment avec le nord de l'Angleterre, l'Écosse. Et toi, tu sais
Oui.
quelque chose que tu mangeais quand tu étais gamin? C'est quoi ton premier souvenir d'un flapjack?
Je crois quand j'étais un enfant, j'aime le porridge et tout avec l'avoine. Donc, quand j'ai trouvé le flapjack, j'aime bien et je crois que je mange ça à l'école. Mais j'ai vraiment oublié le cuisine british et tout après quelques ans à
Oui.
Paris. J'ai un petit cousin qui vient avec sa amie pour un week-end. Elle vient pour un pique-nique, tu sais, je crois que c'est Parc Boucherman. Elle vient avec une petite boîte de flapjack et j'ai un peu, hey, come on, je travaille à Paris, tu viens avec le truc de mamie comme ça, je sais pas, le macaron et tout ça, le croissant, le pain au chocolat à côté, je veux pas ça. Mais un peu plus tard, je mange une et je dis, ok, bon, ok, ça va, c'est bien, donne-moi la boîte. Je mange presque tout le flapjack. Avec Marks & Spencer, c'est toujours à côté de la caisse. Donc, chaque fois, je fais le petit course pour le bacon, le sausage, le crumpets et tout ça. Quand je veux payer, ah oui, il y a un petit flapjack, il y a deux, trois varieties. Il y a une avec le chocolat pour 1,69 €. Toujours, je prends le même. Parfois, je prends deux, je mange une en route, je mange une chez moi. Donc, comme ça, ma femme, elle croit que je mange juste en seul. C'est grâce à un client ici à Project Sausage. Je mets une post pour dire si le week-end j'arrive de faire de tray bake ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu veux? Ok, le premier c'est le carrot cake, c'est le plus populaire, mais le deuxième c'est le flapjack. Et j'ai un peu, quoi? Les gens veulent ça aussi. Ok, j'ai de golden syrup partout chez moi. Donc, j'ai ramené ça et je commence à faire le flapjack. Oui, ça marche très, très
Ah oui,
bien ici.
j'imagine. Et puis, il y a une chose que tu as dit qui est tellement vraie pour moi, et je pense que ça concerne beaucoup de nos pâtisseries, si on peut appeler ça, nos gâteaux en Angleterre. C'est la cuisine de mamie, c'est la cuisine de maman. C'est des choses qui nous rappellent la maison, la chaleur, la famille. Alors qu'en France, on a plus l'habitude d'acheter une pâtisserie, c'est super aussi, mais c'est pas du tout la même chose. Ça va être tout en la finesse, une vraie art. Mais nous, nos gâteaux, c'est à la maison et je trouve ça nous rappelle les souvenirs d'enfance et la famille. Et le flapjack, ça en fait partie.
Oui, j'ai pas beaucoup de bons souvenirs de cuisine quand j'étais un enfant. Vraiment, nous acheter tout chez Tesco ou quelque chose comme ça. Oui, ma mère, vraiment, elle ne fait pas de cuisine, pas de tout. Non, c'est pas vrai. Elle fait le frites une fois par semaine et ça, c'est bon. Mais sauf ça, non. Donc, j'ai pas de souvenirs comme ça. Mais en général, c'est vrai. Quand je réfléchis pour le dessert en Angleterre, soit en France, le plus simple, c'est le tarte tatin.
Oui.
Après ça, c'est toujours le vrai chef pâtissier qui fait oui, le vrai dessert. Mais en Angleterre, c'est plutôt le gâteau, le carrot cake, le flapjack, quand même le banana bread.
Ouais, des choses plus simples, parce qu'on n'était pas des grandes pâtissières, mais les Français, ils aiment bien, hein, ils aiment bien ces gâteaux. Donc, comme je t'ai dit, donc c'était un mot générique hein, qui était utilisé. On trouve les premières traces de flapjack dans le XVIIe siècle. Il y a un poète londonien, John Taylor, qui parle dans une poésie qui s'appelle Jack-o'-lent. Donc, ça parle de la carême. Donc, forcément, je pense que c'était une crêpe, parce qu'on mange des crêpes pour la carême. Et même Shakespeare, il fait référence dans Périclès, prince de Tyr. Mais nous, on va parler maintenant de ta recette. Est-ce que tu veux bien nous partager ta recette pour le vrai flapjack d'aujourd'hui avec les flocons d'avoine et le golden syrup.
Ah oui, pour ça, j'ai chauffé du beurre, de syrup, golden syrup, et de sucre dans une casserole. Et après ça, j'ai mélangé ça direct avec le flacon d'avoine. Je mets dans une plaque au four. Je crois que c'est 175, 180 degrés pendant 20-25 minutes. Mais si vous voulez le flapjack plus gooey, plus chewy, juste ajouter plus de golden syrup. Moi, j'aime bien, donc c'est pour ça que j'ai ajouté beaucoup. Mais c'est vraiment un truc hyper simple.
Ouais, c'est très simple. Et
C'est...
c'est marrant parce que je cherche depuis longtemps un mot pour chewy. C'est un mot qui n'existe pas en France. Ils vont, le mieux je peux trouver, c'est tendre, mais ça, sinon ils vont dire que c'est un peu caoutchouc, mais c'est pas le caoutchouc du tout. Mais c'est sympa, ça reste longtemps dans la bouche parce qu'il faut un peu le mâcher. Alors le tien est assez épais, donc ça contribue aussi à ce côté tendre. J'ai vu, mais si tu veux moins tendre, si tu fais plus plat, je pense que tu finis par quelque chose qui ressemble plus à un biscuit.
Oui, plus plat, aussi moins de golden
Ouais.
syrup. En fait, c'est le golden syrup qui fait ça plus
Ah, c'est
cuit,
le
plus
golden syrup.
chewy.
Donc, il faut peut-être juste expliquer, s'il y a des gens qui ne savent pas, le golden syrup, en fait, c'est un produit dérivé du raffinement de sucre inventé en 1880 par Monsieur Lyle à Londres. Au début, c'était fait pour ses ouvriers, mais ça a eu beaucoup de succès. Et d'ailleurs, c'est le même marque, le même packaging depuis cette époque-là. Alors, effectivement, si on n'a pas la chance, on peut le trouver dans certains supermarchés en France où il y a des petits rayons britanniques. Hein. Moi, j'en trouve en Bretagne. Mais qu'est-ce qu'on pourrait utiliser à la place si on ne peut pas procurer le Golden Syrup?
Oui, toujours je fais avec le Golden Syrup pour Project Sausage, mais si je fais chez moi, peut-être avec du miel en place de Golden Syrup, mais c'est possible de changer le goût en fait avec le miel, soit le maple syrup aussi. Pour ajouter un peu de cardamome, un peu de anise, un peu de graines de fenouil. Elle peut jouer avec ça, quand même avec du
Ah
poivre,
ouais.
ou un truc un peu différent. Oui. Mais c'est juste pour passer ça dans une chinoise avant. Vous ajoutez ça au le flacon d'avant. Mais comme ça, vous avez le goût un peu différent. Donc, il y a toujours les autres choix.
On voit aussi plein de variétés. Moi, je préfère le classique comme toi, tu le fais. Mais c'est un peu comme on trouve aujourd'hui les granola bars, où on peut rajouter des fruits secs ou du chocolat. Est-ce que parfois tu vas hors piste ou tu restes sur le classique?
Ah, toujours le classique pour moi. Mais le granola bar, oui, je comprends, mais pour moi, ça, c'est pas un flapjack. Peut-être pour les autres, oui, mais pour moi, c'est le classique, c'est le flapjack. J'ai un peu old school avec ça. J'aime le classique, oui.
Ouais, mais t'as raison. Et David, maintenant, on arrive au moment de ton faux pas culinaire où je demande toujours à mon invité à partager un moment de gêne associé avec la cuisine.
Oui, vraiment, j'ai 1000 choses, j'ai 1000 possibilités parce qu'après 20 ans en cuisine, beaucoup de cuisine différente, j'ai plein de possibilités, mais je reste gentil avec tout le monde parce que oui, quand même, il y a des choses, je ne veux pas dire, c'est un podcast. Dans mon premier cuisine au Champenoise, quand je suis le stagiaire, toujours, il y a le menu, le carte qui change, tout le menu qui change tout le jour. Donc moi, j'ai aidé tout le monde. Et il y a un chef de partie, s'appelle Joel, et il m'a demandé pour choisir trois fromages et pour tailler trois fromages différents pour le cheese plate. J'ai dit, OK, bon. Donc j'ai choisi une bleue, quelque chose comme Stilton. J'ai choisi quelque chose de chèvre. Et j'ai pris une vraie bloc de parmesan. OK. Donc j'ai taillé tout. Peut-être 30, 35 portions. J'ai dit, OK, bon, ça c'est fait. Est-ce que tu veux quelque chose? Oui, prends une chutney. Alors, instant, j'ai parti pour trouver une chutney. Il y a un autre sous-chef qui vient, il s'appelle Kaby, et il voit le fromage et il veut goûter tout. Il voit, attends, c'est quoi ce fromage-là? J'ai dit, oh, je ne sais pas, c'est un fromage dur, c'est bon. Est-ce que tu goûtais ça? J'ai dit, oui. J'ai goûté, oui, c'est bon, c'est de bonne qualité, mais je connais pas du tout. Il me dit, putain, David, ça c'est parmesan, tu mets ça sur le pasta, ou une lasagne ou quelque chose, pas sur une cheese plate. En fait, nous sommes 15, 20 cuisiniers en cuisine. Donc, après ça, tous les jours, et quand même, si je passe lui dans la rue maintenant, je suis parmesan Dave.
Parmesan Dave, j'adore.
C'est le même pour tout le monde dans cette équipe. Si je vois quelqu'un maintenant ou un petit texte, salut Parmesan Dave, comment tu vas? Ça, c'est 20 ans avant, 20 ans. Je suis une stagiaire, une interne. Maintenant, je suis une chef de cuisine à Paris, mais c'est toujours le même nom. Je n'arrive pas à changer
J'adore.
ça.
Même moi, je vais t'appeler Parmesan Dave maintenant.
Non, merci.
Ben écoute, merci beaucoup, David. Et vraiment, j'encourage tout le monde à aller découvrir ton British Deli à Paris, rue du Chemin Vert, dans le 11e. Je mettrai l'adresse ainsi que la recette que tu vas m'envoyer avec les quantités exactes sur le site web. Et vraiment, bravo, je trouve ce que tu as monté là, c'est un super projet, un projet sausage.
Merci à toi pour le podcast. C'est hyper cool de faire ça avec toi.
Merci. Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous pouvez trouver tous les épisodes de ce podcast sur le site du podcast La Crème Anglaise et aussi sur Spotify, Deezer, Apple, Google et toutes vos plateformes de podcasts habituelles. À très bientôt pour un nouvel épisode. Cheerio and see you soon.